Bien, ouvre tes oreilles.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Je choisis une femme en prenant des risques.
Cinextenso.
Non !
Petit cinérama.
Si putain, je mets la main sur ce salopard qui a fait ça, mais moi je lui démette la gueule.
Oh non, je trouve la situation vachement excitante.
Chronique, invité et nouvelles du 7e art.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
Cinextenso, sur Divergence FM.
Raymond Depardon, avant d'immortaliser François Hollande, batifolant sur la pelouse, a eu une carrière de réalisateur et de photographe longue d'un demi-siècle. Accompagné de sa compagne Claudine Nougaret, première femme chef opérateur du son en France, il continue toujours de sillonner nos provinces pour photographier des paysages sans humain, rendre compte de la couleur et du mouvement de la France profonde mais bien vivante. Ayant toujours été la femme cachée derrière l'artiste, Claudine Nougaret vient avec le film Journal de France sur le devant de la scène, puisqu'elle transforme le cinéaste en acteur et retrace grâce à des rushs inédites, tous les moments de sa vie. Constitué d'allers-retours entre le passé et le présent, Journal de France est à la fois une rétrospective et une réflexion sur l'art de Raymond Depardon, racontant son histoire en même temps que celle de notre pays. Passionnant, émouvant, réfléchi, ce documentaire est également une belle retranscription de la fusion artistique et humaine qui lie ces deux réalisateurs. Réalisateurs d'ailleurs que je vous propose d'écouter tout de suite.
Faire des photos à la chambre, c'est tout un exercice.
Attention.
Et soyez naturel, hein. Naturel.
Ah oui,
toujours.
Raymond est autant cinéaste que photographe. Dès qu'il a un moment, il roule du nord au sud pour photographier la France. Moi, le camping-car, c'est pas mon truc. Rester 3 heures sur un bord de route, j'ai du mal. Du coup, je commence à trier des bouts de film inédits qu'il garde précieusement dans la cave. Des bribes de sa mémoire. De notre mémoire.
Alors justement, vous avez tous les deux en fait des partis pris techniques qui sont assez radicaux. Vous, Claudine Nougaret, vous faites du son en prise directe, et vous, Raymond Depardon, vous photographiez à l'ancienne, oui. Si je puis me permettre. Est-ce qu'il y a des raisons tout simplement à ça, ou est-ce que c'est uniquement artistique ?
Je vois pas très bien ce que je pourrais faire d'autre que du son direct, hein, parce que faire du doublage avec le type de film que l'on fait, ça paraît carrément impossible. Et puis, c'est vraiment une science, c'est vraiment un art, donc c'est ce que je maîtrise le mieux. Et effectivement, c'est un vrai choix artistique. Mais je ne me prive pas de mettre de la musique dans les films, vous l'avez bien vu dans le dernier film. J'aime bien le rock'n'roll, j'aime bien la musique classique. Et contrairement au film précédent, où on était sur la parole de personnes qui étaient convoquées devant la justice, où c'est des situations où on peut pas mettre de la musique dessus, enfin, on ne peut pas interférer sur les sentiments. Là, on était libre dans ce film-là. Et on a pu s'amuser à la fois à faire du beau son direct, spatialisé sur place, au moment de la prise de son. Puis il faut dire aussi que la technologie a beaucoup avancé. On peut faire beaucoup plus de choses en son direct que ce qu'on faisait avant. Et aussi, on a fait un gros boulot de montage son et de mixage, comme d'habitude, mais avec en plus la musique.
Moi, concernant la photo, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Américains qui continuent à travailler avec ce format, des grands formats. Ce n'est visible que quand on agrandit énormément la photo, parce qu'elle est très douce. Si vous n'avez pas eu la chance de la voir à la BNF, c'était des immenses tirages, mais c'est une qualité hallucinante. Et les gens en revenaient pas, parce qu'il n'y a pas de contraste. Il y a une douceur dans les couleurs. Et ça, curieusement, moi, j'aime bien. Et puis, bon, voilà, c'était l'idée de photographier la France sans personnage, parce que, bon, les gens, on les connaît, on les voit à la télévision, à la régionale, il y a la presse régionale qui photographie beaucoup les gens. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup de difficultés pour retrouver des traces des contemporains pour l'année 2012. Ils sont quand même présents, photographiés. Pas toujours bien, pas toujours enregistré, mais enfin bon, on a quand même les Français, on sait qu'ils sont. Par contre, le paysage et un certain nombre de choses comme ça, on n'a pas grand chose sur là où vivent les Français, et notamment ces petites villes dans l'arrière-pays ou des sous-préfectures sont en pleine transformation. On connaît ici dans le département un certain nombre de lieux, puisqu'on nous, on avait...
Il y en a beaucoup dans le film.
On a vécu, mais on connaît l'Odève, bon, il y avait le Canet qu'on a tourné. Là. Il y a des choses, alors, à la fois, il y a des vieilles personnes, effectivement, assises sur leur chaise, qui sont là depuis très longtemps.
C'est vrai, ils ne bougent tellement pas.
Voilà, ils ne bougent pas, et à la fois, bon, ils sentent encore une survivance qu'on ne retrouve plus dans le Libéron. Hein. Ça, tu ne les trouves plus. Dans ce fameux midi de Giono, il n'y en a plus. Donc peut-être un des rares coins ici qui a...
Malgré l'autoroute, ils sont encore là.
Oui, ils sont là, voilà. Et puis aussi, il y a plein de gens qui ont des commerces, qui rachètent des commerces, et qui ont décidé de vivre dans ces villes, dans ces petits villages, et qui, quoi qu'il arrive, essayent de s'en sortir. Et notamment, par exemple, les salons de coiffure, là, on n'a pas montré ça, parce qu'on aurait fallu faire un film de 6 heures, où... les gérants ou ceux qui ont acheté le pas de porte se battent pour vivre, pour exister. Et il y a beaucoup de transformations. La France est un mouvement qu'on avait tendance un peu à cette France profonde. Et puis je crois aussi qu'il ne faut pas l'abandonner. Elle appartient à aucune minorité, cette France-là. Elle est là. Elle est là, elle est bien vivante. Elle est jeune, et bon, voilà, donc ça partait de là. Les centres-villes et les banlieues, bon, ça, c'était autre chose. C'est vrai que il fallait que je fasse le choix, et j'ai écarté dans mon album, mais aussi dans l'exposition, les centres-villes qui deviennent des musées, quoi, un peu. On le voit pour Montpellier, ça bouge plus, quoi.
Comme parti pris, là, je prolonge sa question un petit peu. Il y a aussi quelque chose qui paraît très très opposé à notre époque, qui est une époque de l'accélération, de la rapidité. Il est dit dans le film, et c'est pour ça que, aussi tu expliques que tu attends que le cadre se vide, que le mouvement disparaisse, tu utilises une seconde.
Voilà.
C'est un choix, parce que tu pourrais très bien faire un quart de seconde. Toi, voilà. Voilà, donc...
C'est
un choix fort. Quoi.
C'est-à-dire que moi, d'abord ça me repose, ça m'apaise, et puis c'est un exercice qui m'oblige à pas laisser d'anecdotes dans l'image. Parce que je viens d'une agence que Magnum, je connais le truc, tu vois. Quand il passe une poussette ou quelqu'un qui sort avec une baguette, tac, 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 un peu dans la photo comme ça, ça fait vivant, ça montre que c'est habité, que les Français ont des traditions. Et bien en fait, ça sert à rien, quoi. Parce que c'est quoi cette dame qui sort avec la poussette et tout ? C'est de la pure anecdote. Et c'est pas de la vraie photo, ça. D'abord, on la connaît pas, on la voit pas, c'est un peu... Les gens ne lui parlent pas. Donc, j'aurais tendance à me méfier, moi, si on doit photographier comme ça une rue, de laisser des anecdotes comme ça. Donc là, on peut pas.
Alors, est-ce qu'il faut pas commencer par filmer ses pieds, faire des reportages de guerre, faire le tour du monde, fonder une agence, prôner le droit d'auteur des photographes, pour arriver aujourd'hui à dire, ben voilà, moi c'est comme ça que je photographie la France. Ce film raconte tout ce détour qu'il a fallu faire, à la fois par les films de fiction, les films d'amour, les films du désert, peut-être les films sur les paysans, filmer les institutions, pour qu'il arrive tout seul sur une place de village, et il attende la bonne lumière, et c'est ça qu'il a envie de faire.
Tant pis pour les mouettes, elles vont être floues un peu. Alors, donc j'avais un peu visionné une centaine d'heures dans la cave, là. Il passait 6 mois non-stop. J'ai sélectionné 20 heures, de ces 100 heures, j'ai sélectionné 20 heures, que j'ai montré à Claudine. Et voilà, j'ai dit, voilà ma sélection. Ça comprenait aussi bien des inédits, des reportages comme ça, ce fameux petit film qu'on avait filmé ensemble quand on s'était rencontrés, qui était quand même, on savait que c'était presque la colonne vertébrale du film, et puis aussi des inédits que j'ai été rechercher dans les montages, qui avaient été écartés comme ça, pour des raisons ou une autre, du montage final. Donc je les ai ramenés, j'avais toujours cette idée un peu des remords ou des regrets qui sont très photographes, ça. Alors c'est pas du tout cinéaste, c'est plutôt une démarche de photographe, d'avoir toujours en disant, je mets de côté certains plans ou certaines images ou certaines photos, parce que ça, c'est quelque chose que je fais souvent, l'aller-retour avec mes photos. C'est-à-dire que je vois que j'ai choisi ça il y a 40 ans, et puis 40 ans après, je reviens, mais je dis, non, c'est pas celle-là, la bonne, c'est celle qui est à côté. Donc il y a une navette comme ça. Il y a un travail avec le deuil, il y a beaucoup de choses. Le photographe est quand même quelqu'un qui est sans doute, plus que le cinéaste, obsédé par rapport à la disparition, parce que la photo peut-être est plus violente. Faites une photo, tout de suite, c'est fini, quoi. Le cinéma, non, c'est pas fini, parce que ça reste, c'est une captation du réel qui reste extrêmement forte et contemporaine. Donc voilà, et j'ai montré tout ça à Claudine, qui, elle, à la fois savait que le film allait se composer de ça, mais ne voulait pas que ça soit qu'un film d'archives.
En fait, oui, le film, vraiment, il y pense depuis très très longtemps, parce qu'il a assez beaucoup de films qui conservent. Il y a peu de cinéastes qui ont la chance d'avoir tout leur négatif, parce qu'en général, les cinéastes, ils travaillent pour une production, pour une autre, et ils n'ont pas... Nous, on est producteurs nous-mêmes, et Raymond a toujours été coproducteur de ses films. Donc maintenant, on a effectivement l'entité de nos films en coproduction avec des chaînes de télé, mais ils sont minoritaires. Et donc, tout ça pour dire qu'il était tellement obsédé par ce film-là qu'il voulait presque en faire un film que de ça. Et comme je dis dans le film, je traînais un peu pour mettre en place la production, parce que j'avais pas envie de faire un film passéiste et d'archives. Et quand on est tombé d'accord sur cette idée que j'ai eue de reconstituer son trajet en France, qu'il a fait pour cette mission France, parce que je trouvais que c'était quand même très original de décider un bon matin de dire je vais photographier la France et partir équiper un camping-car et décider au gré de son humeur, comme ça, je vais à droite, je vais à gauche. Je me suis dit, c'est quand même un truc assez exceptionnel, ça serait bien de laisser une trace. Et donc ce trajet là qu'on a reconstitué, ça ancrait le film dans le présent, et c'est comme si Raymond était au volant de son camion et rêvait d'un journal filmé composé de ces bribes de films. Et on a pu trouver un aller-retour entre ces deux médias. C'est un peu comme dans un roman, ou quand il y a un roman écrit à deux voix, comme ça, à la fois moi et Raymond, moi, le passé, le présent. Il y a plein d'entrées comme ça dans ce film finalement, et on ne sait plus trop à un moment, quand on est à Venise, si on est aujourd'hui, demain, l'Élysée, hier, les photographes aujourd'hui. Et on voit évoluer la photographie. À la fois, on est. Alors, ça, je vais dire un truc complètement bateau, on est à un moment charnière, on a une révolution industrielle très importante. Et finalement, c'est peut-être pas plus mal d'avoir un film comme ça qui parle de comment on développe une photo, comment on avance, comment on crée un regard. Parce que je pense que dans 20 ans, je ne sais pas s'il y aura encore des gens qui vont développer comme ça, ouais, une photo avec un agrandisseur.
Faire des photos à la chambre, c'est tout un exercice. Alors d'abord, il faut ouvrir l'objectif, viser, cadrer. Alors faire le temps de pause. Voilà. Je suis à une seconde. Une seconde. À 32. On ferme l'objectif, mettre un châssis. Bien vérifier qu'on a armé, que tout est fermé. Ouvrir le volet. Respirer un grand coup. Attention, ne bougez plus. Il n'y a que des mouettes, mais enfin quand même, on ne sait jamais. Tant pis pour les mouettes, elles vont être floues un peu. Je connais trop la caméra, c'est-à-dire quand Claudine me filmait avec deux caméras, là, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Bon, voilà, elle me dit, ah, ça y est, elle m'a transformé en acteur, elle m'a mis un bonnet neuf, etc.
Ça, t'aime pas ça.
Et alors, c'est vrai que je me suis dit, mais je vais quand même pas faire comme à la télé, raconter ma vie ou un peu se faire de l'autosatisfaction. Parce que j'avais peur du donneur de leçons, hein, comme ça.
Et à la fois, je me suis dit, bon, je ne vais pas dire que j'attends parce que c'est pénible. On sait bien qu'attendre, c'est jamais gay. Mais enfin, bon, c'est notre métier, il faut attendre, quoi. Puis on attend quoi, d'ailleurs? Bon, voilà. C'est effectivement, il faut faire gaffe à la bonne lumière. Parce que si tu attends que la bonne lumière, bon, c'est pas très intéressant non plus. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de photographes qui se sont positionnés. Il y a des mouvements de partout qui font, voilà, sans la bonne lumière, des photos. On fait aujourd'hui des photos sans la bonne lumière, quoi. Heureusement, parce que... Et donc, voilà, de quoi je peux parler? Donc souvent, la caméra tournait, je ne disais pas grand-chose. Hein.
Enfin, je ne dirais pas ça comme ça.
Bon, vas-y.
Je dirais que tu étais très bavard et qu'on a beaucoup enlevé.
Oui,
parce qu'en fait, le problème...
Ça revient au même.
Oui, ça revient au même, c'est-à-dire que le problème, c'était... Moi, je ne voulais pas que le film soit dans le passé, parce qu'il ne pouvait pas dire, j'ai fait ça. Voilà, il fallait vraiment qu'on soit dans le présent. Pour que le spectateur soit avec nous et pas qu'il ait l'impression que ça soit l'histoire d'autres personnes qui l'intéressent pas, et il fallait vraiment ancrer ça aujourd'hui. Donc on a banni le passé dans le langage dans les langues, parce que en fait on n'a pas pu écrire le dialogue de Raymond, donc il a improvisé à chaque fois. Mais ça a été douloureux pour ce film, pour Raymond, parce que il voulait, en général, ça a été une grande bataille. Je disais, mais on s'emmerde. Et lui, il était là, mais encore, non, tu toucheras jamais à ça, et tout ça. C'était une discussion sans fin, j'avais l'impression d'être castratrice. Et à la fois, il fallait quand même que le film raconte une histoire, soit accessible à tout le monde, et pas qu'on laisse pas les gens sur la route.
C'est vrai que de travailler avec Claudine, ça m'a permis de me reculer, et Claudine a tout doucement, n'a rien, le fait d'être à deux n'a pas non plus modifié cet équilibre très fragile qui est le filmer le direct. Claudine était fantastique parce que elle était là, mais elle n'était pas là. Elle regardait jamais les gens. Elle avait aussi la même attitude. C'est pour ça que j'ai même plaisir à lui dire que, comme elle fait le son, Claudine, c'est comme de l'instant décisif, qui est la lettre de noblesse de la photo Leica. C'est-à-dire que c'est tout un pré-réglage d'avance qu'on décide avant. Et puis quand on y va... On voit quelque chose, on fait pas le réglage pendant que ça qu'il se passe quelque chose.
Moi, quelque part, je suis très contente que quelqu'un de l'image parle du son.
Oui.
Parce qu'en général, le son, c'est 40 personnes. L'image, c'est 40 personnes qui s'en occupent sur un plateau et deux qui s'occupent du son. Donc, quand il y a quelqu'un de l'image comme Raymond qui parle du son, qui donne la parole au son, puisque j'ai pu expliquer que j'avais tenter de restituer la symphonie des bruits de la ville en spatialisant le son, etc. Je crois que c'est la première fois que je vois un film, où j'entends un film où on parle de son direct. C'est assez nouveau, j'espère que je ferai des émules et qu'il y aura des gens qui se lanceront un peu. Il y a plein de choses à raconter sur la façon dont on appréhende le son, la façon dont on enregistre le bruit des corps, en quoi ça détermine la géographie dans un film. Tout est une question d'inconscient et tout est dans l'indicible.
Parce que toi, tu avais travaillé Claudine a travaillé avec des grands ingénieurs.
Mais je suis une grande ingénieure.
Oui, mais elle a travaillé, elle a été formée, elle a été formée par des grands ingénieurs du son, du cinéma direct.
C'est moi qui vais les former maintenant.
Oui, de cinéma direct, du cinéma, comme Perchman. Donc elle a beaucoup appris de choses, qui est effectivement, ça a l'air de rien, mais si le micro est mal placé, la scène est fausse. Il y a des metteurs en scène qui ne savent toujours pas ça. Et qui ont des acteurs, si le micro est mal placé, bizarrement, ça sonne faux. Donc ça, c'est effectivement quand même une chose.
Non, mais là, c'est drôle parce que pendant la campagne présidentielle la dernière, on a vu le retour des ingénieurs du son grâce à l'ancien président qui balançait des petites phrases. Ils se sont tous dit, on va rater quelque chose, donc ils ont remis les ingénieurs du son.
Les chaînes riches.
Mais c'est assez drôle parce que c'était complètement inattendu, parce que les ingénieurs du son disparaissaient du paysage audiovisuel et tout le monde attendait le casse-toi pauvre con qui n'est pas arrivé.
Les choix des musiques, c'était vraiment mélangé, c'est vos goûts et vous tous les deux.
Vous savez, une fois que c'est fait, on peut dire y a peut-être deux musiques de générations différentes. On a 16 ans d'écart, c'est vrai que moi je suis plus Patti Smith que Gilbert Bécaud.
Moi j'ai Gilbert Bécaud et Gloria Lasso.
Et moi j'ai Machung et Patti Smith. Alors là, maintenant une fois que c'est fait, c'est plus simple. Mais on a tout fait d'un commun accord. C'est vrai que moi j'étais déterminée à mettre du rock'n'roll. J'avais vraiment envie parce que ça s'y prête, parce que le voyage, la route, c'est facile de mettre du rock'n'roll sur la route. Ça marche à tous les coups.
J'ai crevé l'oreiller, ça me prend les jours fériés. Quand Gisèle clappe dehors, j'aurais pas dû ouvrir à la roquine carmélite. La mère sup m'a vu venir, Dieu avait mis un kilt. Y a dû y avoir des fuites. Oh, oh, vertige de l'amour. Mes circuits sont niqués. Puis y'a un truc qui fait masse. Courant peut plus passer. Non, mais t'as vu ce qui passe. Le feuilleton à la place. Oh, oh, vertige de l'amour. Tu chopes des souhaits à Saigon. Je m'écris des cartes postales du front. Si ça continue, je vais me découper. Suivant les points de
Bien, ouvre tes oreilles.
Comment faire beau pour choisir un film?
Comme je choisis une femme, en prenant des risques.
Cinextenso.
Non!
Petit cinérama.
Si putain, je mets la main sur ce salopard qui a fait ça, mais moi je lui démate la gueule.
Oh non, je trouve la situation vachement excitante.
Chronique, invité et nouvelles du 7e art.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
Cinextenso, sur Divergence FM.